des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, rentrée littéraire au programme avec une rencontre entre deux filles dont on a adoré les livres, aussi différents soient-ils, même s'ils sont unis par le plus puissant des thèmes, la jeunesse. Nos deux invités la couchent sur le papier, cette jeunesse, et c'est assez énergique, remuant, pas banal, comme on va le voir. Avec nous, l'américaine Otessa Moshfegh, dont Bret Easton Ellis nous avait dit en mai dernier tout le bien qu'il pensait de cette jeune romancière de 38 ans. Elle publie chez Fayard le très mordant roman Mon année de repos et de détente. Bonjour Otessa Moshfegh.
Bonjour.
Et j'en profite pour, on n'a pas entendu sa voix, mais pour saluer Xavier Combes qui sera votre interprète.
Bonjour.
Pendant cette émission. Ça va Xavier?
Oui, très bien.
Bon. Avec vous, Kaouter Adimi. Bonjour Kaouter Adimi.
Bonjour Christophe.
Prix Renaudot des lycéens 2017 avec Nos richesses, évocation du légendaire libraire et éditeur d'Alger Edmond Charlot. Vous publiez en cette rentrée Les Petits de décembre. Au seuil, Otessa Moshfegh, vous êtes la nouvelle coqueluche de New York. On ne cesse de vous tresser des louanges du New York Times au New Yorker. Vous êtes née à Boston en 1981. D'un père iranien et d'une mère croate. Alors après des études dans le domaine de l'art, Otessa Moshfegh, et cela se sent d'ailleurs tant vous vous moquez tendrement du milieu de l'art contemporain dans votre roman, vous avez publié des textes dans la Paris Review et dans le New Yorker. Votre premier livre, une novella, a été publié en 2014. Le titre, c'était MacGlue. Puis, il y a eu un recueil de nouvelles intitulé Homesick for Another World. Et en août 2015, votre premier roman, Aileen, qui a remporté le prix Hemingway Foundation Pen Award en 2016 et qui s'est retrouvé sur la liste des finalistes pour le Booker Prize et pour le National Book Critics Circle Award. Plus noir que noir, froid comme un glaçon, brillamment fait et horriblement drôle. Voilà ce qu'a déclaré le grand romancier irlandais John Banville après avoir lu Aileen. En 2018 est paru My Year of Rest and Relaxation, qui sort en France sous le titre Mon année de repos et de détente, traduit de l'anglais par Clément Baude. Cool, étrange, singulier et tenu, c'est un immense bonheur de la lire. Ça, c'est le New York Times qui déclare ça, et on est plutôt très d'accord avec le New York Times. On rajoutera aussi en français, avec ce mot français un petit peu peut-être étrange, que c'est culotté, mais aussi féroce, émouvant et surtout très libre, et ça fait du bien. Alors qu'est-ce que raconte ce roman? Comment une fille diplômée de Columbia et assez riche à cause de la mort de ses parents, qui vit à New York dans l'Upper East Side, décide d'hiberner à coups de médicaments parce qu'elle s'ennuie terriblement. Elle va donc prendre des tonnes de produits prescrits par une psy assez dingue, dont chaque apparition est l'occasion pour le lecteur de se régaler d'une dizaine de pages, d'une drôlerie féroce. Entre deux sommeils, votre héroïne s'inflige la visite de son ex et de sa meilleure amie en mal d'affection, et le reste du temps, elle nous déploie sa vision de la vie. Et c'est vraiment une analyse impitoyable de l'époque, troussée dans un style acéré, ironique, direct. Tout y passe, les pratiques des jeunes mâles de Manhattan, le milieu de l'art et des galeries, la jeunesse diplômée, shootée au médoc et au psy. Et c'est tellement impitoyable sur l'Amérique et l'ère contemporaine qu'on se dit mais comment fait-elle pour être si lucide, même si évidemment elle raconte tout ça après être sortie de ce coma volontaire, d'être si lucide, de ne rien oublier, alors qu'elle est censée avoir le cerveau totalement abruti par le médicament?
Il faut bien comprendre avant toute chose qu'il s'agit de fiction.
Sometimes people come up to me after a reading or
parfois,
a presentation and they ask me like,
les gens
know,
me disent
really
mais est-ce qu'on peut vraiment survivre après avoir pris autant de médicaments? Mais je dis mais non, c'est totalement impossible.
She should be dead.
Elle aurait dû mourir, on est bien d'accord, mais
they build up a tolerance to
il y a des gens qui deviennent très tolérants aux médicaments. Encore une fois, c'est un roman, c'est de la fiction, et il y a un peu de fantastique là-dedans. Et il y a par exemple le personnage du psychiatre, ridicule. Il y a l'informiterol, médicament qui n'existe pas. Et c'est un médicament qui inflige des comas de 3 jours au personnage, du moins c'est ce qu'elle pense.
So she's telling the story after the fact.
Donc elle raconte l'histoire après qu'elle s'est passée cette expérience d'hibernation. Et vers la fin du livre, j'espère que le lecteur comprend qu'elle s'est réveillée, mais le lecteur n'est pas tout à fait sûr de la nature de l'expérience. Et le lecteur n'est pas sûr de véritablement saisir la perception qu'a le personnage de la réalité. Cela dit, je crois qu'elle raconte pas mal son histoire. Et elle se souvient bel et bien de l'époque où elle était consciente. Et en revanche, elle ne se souvient pas des périodes où elle ne l'était pas. Donc, par son récit, on apprend à comprendre l'époque qu'elle a vécue lorsqu'elle était éveillée, consciente, au moment de l'hibernation. Elle raconte des passages oniriques, des souvenirs, des flashbacks, et il y a également des récits annonciateurs, ce qu'elle va connaître lorsqu'elle se réveillera. Il y a là un alter ego qui s'exprime lorsque elle est dans le plus profond des sommeils.
Alors je le disais, Otessa Moshfegh, quand on a fait cette émission avec lui, avec Bret Easton Ellis, dans sa chambre d'hôtel à Paris, il nous a dit vraiment tout le bien qu'il pensait de vous, que vous aviez un talent immense, c'était son expression, et que le personnage de Mon année de repos et de détente était un personnage à la Bret Easton Ellis. Est-ce que, selon vous, il a raison? Est-ce qu'il dit juste? Et en quoi ce personnage de jeune à la dérive médicamenteuse doit au roman de Bret Easton Ellis et notamment à Moins que Zéro qui nous parlait aussi d'une certaine jeunesse. Qu'est-ce qui rapprocherait votre héroïne des héros de Moins que Zéro? À moins que Bret Easton Ellis dise n'importe quoi.
I love Bret. I love his novels.
J'aime beaucoup Bret.
I actually hadn't
j'aime beaucoup
read
ses romans.
Less than Zero until
Moins que Zéro.
About a year ago,
je n'ai pas lu. Je ne l'ai lu qu'il y a un an seulement. On m'a demandé d'écrire une introduction pour une nouvelle édition de ce roman. Nouvelle édition qui vient de sortir aux États-Unis. Et ça, c'était très intéressant pour moi. J'avais lu American Psycho il y a très longtemps. J'étais tout à fait stupéfaite par ce livre. Et puis, quand j'ai rédigé cette introduction, j'avais l'impression qu'American Psycho, c'était
d'une certaine
façon, non pas un roman précurseur, mais une espèce de roman qui m'a donné des idées auxquelles je ne serais pas parvenu aussi facilement si je n'avais pas lu Bret Easton Ellis, en particulier s'agissant de la distance entre l'auteur et le narrateur. Et la distance entre le narrateur, la narratrice en l'occurrence, et son moi externalisé. Il y a là d'abord des choses que nous savons à propos de la narratrice. Il y a ce que le narrateur ou la narratrice révèle. Il y a une sorte de conscience, d'ironie, une espèce de déséquilibre mental. C'est difficile à expliquer, mais American Psycho, c'était vraiment une grosse influence pour moi. Par ailleurs, le narrateur de Bret parle de la pop culture de manière un petit peu perverse et obsessionnelle. Ça, c'est très intéressant et ça m'a pas mal influencé aussi.
Alors, Les Petits Décembre, c'est un roman donc plein de jeunesse, la vôtre peut-être, mais surtout celle de vos héros, en tout cas d'abord celle de vos héros. On est en Algérie, où vous êtes né, Kaouter Hadimi, en 1986. On est à côté d'Alger, à Deli Brahim, une petite commune où la vie est tranquille, dans une sorte de lotissement occupé par d'anciens militaires, donc plutôt aisés. On commence avec la jeunesse de ce quartier, notamment trois enfants, deux garçons, Jamil et Madi, et une petite fille, Inès, qui joue au foot dans un terrain vague qui n'appartient à personne, jusqu'à ce que deux généraux, un beau jour, arrivent en voiture et annoncent qu'ils vont se construire là où jouent les jeunes, des villas, deux villas, une pour chacun d'entre eux. Les jeunes se mobilisent avec l'aide de la grand-mère Adila, une mujahida, une combattante adulée pour sa résistance, notamment aux Français pendant la guerre d'indépendance. Et là, tout s'envenime, les enfants mènent la révolte, le pays entier regarde. Comment le régime va-t-il réagir? C'est ce qui fait tout le sel de votre roman, en forme de fable, je trouve, où le pouvoir est clairement décrit comme corrompu, le monde adulte comme lâche, et où l'héroïsme est du côté de la jeunesse et de la sincérité de ses indignations. C'est une ode à la jeunesse dont on a l'impression qu'elle est un petit peu peut-être la dernière chose intacte en Algérie, et qu'on a vu à l'œuvre hein, d'ailleurs ces derniers mois. C'est une ode à la jeunesse que vous avez voulu faire?
C'est une ode à la jeunesse parce que j'avais envie de raconter un petit peu dans ce roman les coulisses de ce pays, au sens que c'est un pays où malheureusement est mis en place tout un système de corruption. Et moi je dis souvent qu'on est tous corrompus ou qu'on a tous corrompu. Alors évidemment pas tous à des niveaux extrêmement élevés, mais par exemple, dès lors que vous avez besoin d'un papier en Algérie, il faut souvent connaître quelqu'un, faire intervenir quelqu'un, etc. Et mine de rien, on perpétue un système en faisant ça. Et les enfants sont les seuls à être effectivement totalement intacts. Ce sont les seuls qui, lorsqu'ils ont des idéaux, s'y tiennent. Et c'est les seuls aussi qui n'ont pas peur des autres. Leurs parents, en revanche, dans ce livre en tout cas, eux sont effectivement lâches, craintifs, résignés aussi. Et au-delà d'une lutte des enfants, moi j'avais envie aussi de questionner cette génération qui est la génération de mes parents. Et peut-être qu'il y avait quelque chose aussi, moi, à régler avec cette génération-là, que j'ai beaucoup fréquenté, que j'ai beaucoup écouté. Deir Ibrahim, c'est un endroit que je connais très bien. Mes parents habitent là-bas. C'est effectivement, il y a là-bas, effectivement, cette cité du 11 décembre, qui est une cité où tous les terrains ont été vendus à des militaires et où, effectivement, il y a un terrain vague qui a été accaparé. Moi non, mais mes frères beaucoup avant de s'exiler en Asie. Et effectivement, ce terrain vague a été en 2016 réquisitionné, ouais, acheté, comme disent, par des généraux. Et il y a eu une petite révolte et des jeunes.
Enfantine, comme ça, ou
enfantine
jeunesse,
et ouais. Jeunes. Ouais. Jeunes et enfants, plus quelques ouais. vieilles personnes. Et des jeunes ont enlevé se sont attaqués aux généraux et ont enlevé les armes.
Donc
et
ça moi, vient d'une histoire.
Ça vient d'un fait divers,
fait divers
réel, ouais, réel ouais. tout à fait. Moi, je suis arrivée à Alger, c'était un de mes voyages. Je suis arrivée à Alger quelques jours plus tard. Et je connais quelqu'un qui s'est fait arrêter 48 heures, quelqu'un de ma famille, etc. Et ce qui m'avait interpellée, c'est que ces enfants, ces jeunes, s'étaient battus contre des généraux et avaient enlevé les armes des généraux. Et je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose dans ce pays, on est dans un nouveau cycle. Parce que s'attaquer à des généraux en sachant que c'est des généraux et enlever leurs armes, ne pas avoir peur et lutter, c'est quelque chose que je trouvais d'assez nouveau. Je me suis dit, il se passe quelque chose dans le pays. Racontons cette histoire, imaginons que les enfants s'accaparent le terrain, refusent de le quitter et que tout le pays rentre un peu en révolution via les enfants. Ah, et puis racontons le rôle de ces adultes qui, eux, observent leurs enfants se battre pour leurs idéaux, mais ne veulent pas s'en mêler parce qu'ils ont peur et parce qu'ils ne croient plus en fait qu'on peut changer les choses en se battant et ils ne croient pas à la possibilité de ce pays à changer.
On va parler un peu de la jeunesse avant d'entrer vraiment en profondeur dans vos livres. Et de la jeunesse et de ce qui vous intéresse chez elle. En préparant cette émission, je retrouvais une citation d'un grand moraliste du XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, La Rochefoucauld, qui disait « La jeunesse est une ivresse continuelle, c'est la fièvre de la santé, c'est la folie de la raison ». Qu'est-ce qui vous intéressait, Otessa Moshfegh? Parce qu'il y a eu avant ce roman, Eileen, qui était aussi l'histoire d'une vieille dame qui se souvenait d'un épisode de sa vie qui avait eu lieu 50 ans plus tôt. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'idée de travailler sur cette période de la vie, qui est peut-être une période de transition, de métamorphose, qu'est la jeunesse? Est-ce qu'au fond, votre héroïne, elle aurait pu ne pas être jeune, être une vieille dame qui décide de s'abrutir de médicaments?
Well, I don't think an older character would have...
À vrai dire, je ne pense pas qu'un personnage plus âgé aurait agi comme cela.
I think that because she's in her early 20s,
elle a un peu plus de 20 ans, en l'occurrence, et par conséquent, elle souffre un peu plus d'anxiété, mais en même temps, elle est plus libre.
Who knows? Maybe if she
mais
had been
qui sait,
55,
si elle avait eu, disons, this, 55 ans, elle aurait pu faire cela et ça aurait été totalement pas glamour. Mais en fait, je crois que ce qui nous intéresse dans la jeunesse, c'est la beauté. Les gens à 24 ans sont encore beaux.
to imagine a 75-year-old woman taking a year off taking pills.
D'imaginer une femme de 75 ans qui décide de se mettre dans une condition de coma sous médoc. Ça, c'est quand même déprimant. Donc là, le personnage est jeune. Et je crois que ça permet d'abriter un récit dans un cocon de beauté et quand même de vie.
De beauté, ça vous parlez de beauté extérieure ou du fait qu'à cet âge-là, on est dans un état mental aussi qui permet, c'est intéressant pour un romancier, qui permet de déployer des pulsions excessives aussi, que ce soit dans la liberté ou dans la destruction d'ailleurs, qui est une forme de liberté aussi.
Well, this book takes place in the year 2000 and
le livre s'inscrit au début du siècle, l'an 2000.
American culture.
À cette époque-là,
a turn of the millennium. There was a hopefulness and a kind of
c'était le nouveau millénaire. La société américaine était pleine d'espoir. Et on était dans un excès du point de vue de l'expression de l'imagination. L'avenir était là, l'avenir était présent.
Et
je crois que les jeunes pensaient que c'était le début d'une nouvelle ère. Alors, où se trouve la beauté là-dedans? Les choses étaient nouvelles. Elle est nouvelle et elle est assez belle, jolie, d'un point de vue superficiel, parce que c'est pas quelqu'un qui est rejeté de la société parce qu'elle est laide et que personne n'a le désir. Non, elle, si elle avait voulu, elle aurait pu s'intégrer dans la société de manière tout à fait habile et sans problème, mais ça l'intéressait pas, elle voulait pas participer à la société, donc c'est par choix qu'elle s'est exclue.
Et vous parliez des années 2000, les événements de 2001 du 11 septembre ont fracassé justement cet espoir dont vous parliez à ce moment-là dans la jeunesse.
I don't know. It didn't really dash my hopes.
Je sais pas, en tout cas, ça n'a pas terni mes propres espoirs. Moi, mes espoirs étaient déjà
I mean in terms of imagining some kind of perfect world, but
je vous parle d'un idéal, d'un monde parfait. Là, je me faisais plus d'illusions, moi.
Very traumatic.
À cet âge-là, quoi qu'il en soit, le 11 septembre a été un énorme traumatisme.
People witnessing that event who were still in their very formative years,
qui assistaient à cet événement alors qu'ils étaient en train de devenir adultes. Peut-être que ça
we could really know.
Les a affectés au-delà de ce qu'on pourrait craindre.
I think what was maybe more disappointing was the re-election of George W. Bush.
Mais la réélection de George W. Bush, ça, c'était vraiment encore plus décevant. Ça m'a véritablement choqué. La réélection de George W. Bush, ça signifiait que bien que
we hadn't fallen under anything. Some of us truly believe that starting a war.
Mais certains d'entre nous pensaient que lancer une guerre en Irak, c'était la bonne réaction à un prétendu attentat terroriste. Et en réalité, personne ne savait vraiment ce qui s'était passé au lendemain du 11 septembre. Tout le monde savait que cette guerre était menée par mensonge, par illusion, par réaction.
On en reparlera tout à l'heure avec vous, Tessa Machek, parce que c'est un événement qui compte aussi dans mon année de repos et de détente, sans trop en dévoiler. La question s'adresse à vous aussi, Kauter Adimi, en ciblant, justement, en mettant l'accent sur la jeunesse, sur l'enfant, sur les petits, comme vous dites. Qu'est-ce que vous cherchiez, même en termes de décalage même?
Mais pour moi, les petits dans mon roman, c'était un peu les intouchables pour le pouvoir. Et d'ailleurs, les généraux se retrouvent très vite démunis face à tous ces enfants qui ont envahi le terrain, qui refusent de partir, parce que les méthodes du pouvoir algérien ne s'appliquent plus. Ils ne peuvent pas les infiltrer, ils ne peuvent pas les menacer, ils ne peuvent pas leur faire peur en leur disant « Mais attendez, vous êtes en train de déstabiliser le pays, c'est la main de l'étranger, parce que le pouvoir en Algérie, son grand dada, c'est vraiment de nous expliquer toujours que c'est les puissances étrangères qui sont en train de déstabiliser le pays. » Ils se disent « Est-ce qu'on va leur dire, mais à la menace islamiste. Enfin, c'est des enfants, ils comprennent même pas ce que c'est, ils s'en fichent. Et du coup, pour moi, c'était mettre en place des personnages qui sont vraiment les plus révoltés possibles et qui vont mettre les généraux face
les à une intouchables.
Oui, totalement intouchables, parce qu'ils ne peuvent pas les arrêter. Ils savent que s'ils s'y mettent en prison des enfants, il va y avoir une révolte dans le pays. Donc, ils sont démunis. Et j'avais envie de créer ce rapport de force complètement absurde entre des généraux qui tiennent tout le pays dans le creux de leurs mains et des enfants qui n'ont rien, même pas le soutien de leurs parents, qui d'ailleurs essayent un petit peu de les convaincre que ce n'est pas une vraie cause, que ce n'est pas comme ça qu'on se bat, qu'il ne faut pas faire de révolution et que de toute façon, la révolution, c'est à eux de la mener. Et c'était ça aussi pour moi, les enfants. C'était un miroir face à la génération de leurs parents. Parce qu'en Algérie, on infantilise énormément les jeunes. On infantilisait, je dirais, énormément les jeunes. Parce que depuis fin février, les choses ont changé.
Ça a changé vraiment à ce point ?
Oui, ouais. Je pense que les choses ont changé et que de toute façon, ce mouvement-là a une telle ampleur que même si ça ne changeait pas de manière naturelle, ça changera de fait. Mais vous voyez, je me posais là, en arabe, il y a beaucoup de mots pour dire les petits. On dit et souvent c'est péjoratif. On dit buzz en Algérie, c'est vraiment le petit, mais
le gamin,
Mania, le gamin. Mais encore plus à Oran, on dit très rush. C'est pareil, ça c'est un côté un petit peu péjoratif. Et puis souvent on va dire de toute façon t'as pas fait la guerre, donc tu n'as rien fait. Parce que bon, évidemment, je dirais la guerre s'est terminée en 62. 80% de la population algérienne n'a pas fait la guerre, donc à partir de là, il faut quand même réussir à se démarquer, à exister. Et c'est vrai que du coup, pour moi, cette jeunesse, elle venait en miroir à cette génération de mes parents, qui est une génération très particulière, parce qu'eux non plus n'ont pas fait la guerre, ils sont nés à la fin de la guerre, et à eux, on a toujours dit, c'est pas encore le moment pour vous.
On les infantilisait,
comme eux aussi, voilà. Mais en même temps, aujourd'hui, ils se retrouvent face à cette génération de jeunes, ils n'ont pas vu venir, qui créent un mouvement de révolte, et ben c'est toujours pas leur tour, en fait, parce qu'ils ont laissé passer leur tour, les anciens ont gardé le pouvoir et ont tenu le pays entre leurs mains jusqu'à ces derniers mois. Et la jeunesse est sortie. Et dans mon roman, c'est un peu ce que je raconte. En 2016, la jeunesse est sortie. Et eux se retrouvent en disant, mais non, hors de question que vous réussissiez parce qu'en fait, c'est à notre tour.
Oui, c'est ça. Perturber aussi la chronologie politique. Quoi. En redonnant ces lettres de noblesse à la vie et l'énergie de cet âge dit tendre. Voilà. On continue avec vous, Kauter Adimi et Otessa Moshfegh. On va commencer d'ailleurs par Mon année de repos et de détente, le roman que vous publiez chez Fayard, Otessa Moshfegh. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Joni Mitchell, The Wolf That Lives in Lindsay.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
In men's minds, what can you say? That wasn't marked by history or the TV news today. He gets away with murder. The blizzards come and go. Heavy snow, it comes and goes, it comes and goes.
Joni Mitchell, The Wolf That Lives in Lindsay, c'est le choix musical d'Otessa Moshfegh qui publie Mon année de repos et de détente chez Fayard. Pourquoi ce choix musical, Otessa Moshfegh?
I love this song. I think it's one of my favorite songs.
J'adore cette chanson, c'est une de mes préférées et j'adore Joni Mitchell.
This comes from an album that she did with Charles Mingus.
C'est tiré d'un album qu'elle a fait avec Charles Mingus. Collaboration très intéressante. Quand on pense à Joni Mitchell, on ne pense pas qu'elle soit artiste de jazz. Mais moi, cet album-là est évidemment très jazz avec Charles Mingus. C'est de la musique très expérimentale. Et ce morceau-là est hanté. C'est vraiment l'intérieur d'une personne qui se révèle par la musique et par le chant.
Joni Mitchell, Joni
Mitchell est une parolière exceptionnelle. Du reste, j'ai pris des paroles de cette chanson et je les ai mises au tout début de mon roman. C'est une chanson qui porte sur la nature humaine dans tous ses aspects les plus essentiels, la façon dont nous pouvons nous laisser corrompre facilement. Cette chanson décrit à quel point il est facile de se laisser trahir ou de nous trahir nous-mêmes. Et il reste néanmoins un élément de sauvage en nous.
Avec ces paroles, Lindsay loves the ways of darkness. Lindsay aime les chemins de l'obscurité. Est-ce que la musique joue un rôle important quand vous écrivez dans votre travail de romancier? Vous avez besoin de musique? Vous faites souvent référence à la musique?
No, I can't write with music.
Je n'écris pas en musique, je ne peux pas. Mais de temps en temps, quand j'écris, je tombe sur une chanson ou un morceau qui résonne parfaitement bien avec ce que je suis en train d'écrire. Mais je ne peux pas écrire en musique parce que c'est une distraction trop importante. C'est pas une raison très intéressante, vous me direz, mais il peut y avoir quand même une antinomie avec la musique de l'écriture. Par conséquent, j'écris en silence.
Alors, comment une fille diplômée de Columbia, riche, belle, pour laquelle, a priori, tout va bien, va se retrouver à hiberner à coups de médicaments dans le New York d'avant le 11 septembre. C'est ce que raconte Mon année de repos et de détente, votre livre Tessa Moshfegh. Elle prend, votre héroïne, des tonnes de produits qui sont prescrits par sa psy, assez dingue, dont chaque apparition, je le disais, est l'occasion pour les lectrices et le lecteur de se régaler d'une dizaine de pages d'une drôlerie irrésistible. Entre deux sommeils, elle s'inflige la visite de son ex et de sa meilleure amie en mal d'affection. Et le reste du temps, elle nous raconte, elle nous déploie sa vision de la vie et de l'époque. C'est une analyse impitoyable qu'elle fait, cette héroïne, sur l'époque. Tout y passe, hein, les pratiques des garçons à Manhattan, leur lâcheté, le milieu de l'art contemporain et ses excentricités assez pathétiques, pour votre héroïne en tout cas. La jeunesse diplômée qui finalement se shoot avec ses médicaments. Et je ne résiste pas au plaisir, pour se mettre dans le bain tout de suite, de lire un petit passage de ce livre. Le lendemain, je me suis inscrite au chômage, ce que Natacha n'a pas dû apprécier, mais elle ne m'a jamais appelée. J'ai mis en place le ramassage hebdomadaire du linge avec la laverie automatique et des paiements automatiques pour toutes mes charges. J'ai acheté une vaste sélection de VHS à la boutique d'occasion de Jewish Women's Council sur la 2e avenue. Très vite, j'ai pris des cachets à haute dose et je dormais jour et nuit avec des pause de 2 à 3 heures, je trouvais ça bien. Je faisais enfin quelque chose qui comptait vraiment. Le sommeil me semblait productif. Quelque chose était en train de se mettre en place. En mon fort intérieur, je savais, c'était peut-être la seule chose que mon fort intérieur ait su à l'époque, qu'une fois que j'aurais assez dormi, j'irais bien, je serais renouvelé, ressuscité, je serais une personne totalement nouvelle. Chacune de mes cellules aurait été régénérée assez de fois pour que les anciennes ne soient plus que de lointains souvenirs nébuleux. Ma vie passée ne serait qu'un rêve. Et je pourrais, sans regret, repartir de zéro, renforcé par la béatitude et la sérénité que j'aurais accumulée pendant mon année de repos et de détente. C'est donc à cela que rêvent les jeunes filles de Manhattan, dormir, Tessa Moshfegh. Je voulais savoir comment était venue, quand même, cette drôle d'idée de se lancer dans un roman qui raconte l'abrutissement méthodique d'une jeune fille de son époque. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, ça va peut-être être assez répétitif à raconter?
Non, ce n'était pas une préoccupation, ça.
Parce que
si l'histoire était devenue répétitive, j'en aurais fait une nouvelle, je pense. Mais j'ai compris que le personnage avait un désir impérieux de changer de vie. Et son parcours de sommeil, c'est plus une opportunité qu'une fin en soi. Je comptais sur elle. Je voulais qu'elle me montre ce à quoi menait le récit. Elle m'a montré, elle m'a bien montré le chemin. Alors évidemment, il y a des heures, hein, c'est pas sans difficulté. Ce livre n'était pas facile à écrire.
Comment s'est passée justement l'écriture de ce livre ? D'où est-elle venue, cette idée d'hibernation chimique ? Comment c'est venu ? Ça venait après Aileen, ça venait après une novella, après plusieurs short stories. Cette idée extrêmement singulière, efficace, mais qui n'est pas forcément romanesque au départ, en tout cas pour tenir la distance. Comment a-t-elle surgi dans votre subconscient ? Est-ce que vous êtes penché là-dessus ?
Well, I think all of the characters in my books, they're all sort of searching for an alternative way.
J'ai l'impression que tous les personnages de mon œuvre cherchent une façon différente de vivre. Ils sont frustrés par leur esprit, par leur état d'esprit. C'est ça qui m'intéresse en tant qu'écrivaine, parce que j'écris surtout à la première personne. Par conséquent, en ce faisant, j'ai accès à l'intérieur. Mais le moi peut être un observateur. Et parfois, il y a un conflit entre ce qui est observé et ce qui est ressenti et ce qui est exprimé. Alors, comment en suis-je arrivé à ce personnage et à cette névrose obsessionnelle?
Well, I had already covered alcoholism.
L'alcoolisme, j'avais déjà couvert. Même chose pour le traumatisme crânien. J'ai également parlé d'un certain nombre de pathologies, pas forcément répertoriées. Dans mon livre, Aileen, il y a de la névrose. À vrai dire, je crois que tout le monde est névrosé. Je ne connais personne qui n'ait pas une névrose ou une fêlure qui ne soit pas digne d'être racontée. Mais en l'occurrence, ce personnage de jeune femme me semble assez courageuse. Et c'est une femme que je n'avais jamais rencontrée, moi, ni dans la fiction, ni ailleurs. Elle savait vraiment prendre les choses à bras le corps, détacher, et elle veut réécrire sa propre vie, réécrire sa propre histoire. Et puis, si ça ne marche pas, cette expérience d'hibernation, elle doit se dire, bon, tant pis, allez, je vais mourir. Donc là, les enjeux sont plus forts que dans mes autres ouvrages.
Est-ce qu'il faut voir derrière ce qu'elle appelle son « good, strong American sleep », hein, ce bon, gros sommeil américain, une sorte de métaphore des États-Unis à l'époque, de la jeunesse américaine, ou est-ce que vous êtes rétive à toute interprétation vous-même sur votre travail ?
I think there are a lot of metaphors.
À vrai dire, il n'y a pas qu'une métaphore dans ce livre. À vrai dire, je ne savais pas qu'il y aurait le mot argotique des millennials qui est woke. Woke, ça veut dire, en argot des millennials, ça veut dire que l'on est conscient des questions de sensibilité politique, sociale, économique et de genre. Donc, dans ce mot woke, qui est très, très à la mode aux États-Unis, ça signifie que je suis conscient qu'il faut tenir compte de tout cela. Il faut cette sensibilité. Et en même temps, on sait que le monde ne tourne pas rond. Donc, l'éveil, c'est pas forcément une libération spirituelle, une sorte de nirvana. Non, c'est une façon différente de vivre la conscience du présent.
I think that, you know, that what you quoted, good, what was a good American sleep? There is a kind of robustness.
Dans le
good
American sleep, comme vous venez de le dire, il y a une espèce de robustesse dans l'arrogance américaine. Cette société américaine qui, de manière collective, pense être le centre du monde. Et il y a une espèce de courage insensé des Américains. Les Américains sont des gens, sont un peuple qui travaille avec ses mains. Ce sont des gens solides. Les Américains ne se considèrent pas comme des gens éthérés. Et, mais en réalité, nous sommes tous comme tout le monde.
Alors, Aux États-Unis, c'est peut-être une différence entre nos deux civilisations. Votre héroïne, elle a été perçue comme antipathique. J'ai lu ça et là que certains critiques, tout en saluant le livre, hein, évidemment, disaient c'est difficile pour le lecteur de l'aimer parce qu'elle est wasp, parce qu'elle est riche, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est blasée, parce qu'elle a aucun éveil politique, aucune ambition artistique ni professionnelle, peu d'empathie avec sa meilleure amie qui vient la voir régulièrement. Moi, j'ai pas du tout été gêné par ça. Je l'ai trouvé très drôle, hein, d'ailleurs, cette héroïne. Est-ce qu'on met trop de morale dans l'art aux États-Unis? C'est d'ailleurs le sujet du dernier livre de Bret Easton Ellis, White.
I personally find the moralizing of my own work really
boring. Je trouve que le fait d'apporter une analyse morale à mon œuvre, c'est ennuyeux. Mais cela dit, ça permet une interprétation, ça permet de se forger une opinion quant à l'art. Difficile de parler d'abstraction, c'est très difficile de parler d'abstraction. Du reste, c'est le but de l'art, c'est la matérialisation de l'abstraction pour qu'on puisse en parler.
I do think that there's probably some sort of breaking point at which
on dirait qu'il y a une sorte de point de rupture. La préoccupation morale devient une espèce de contrôle fasciste. Là, il y a un équilibre très ténu. Et il se peut bien que dans la culture américaine, en raison des médias et des réseaux sociaux,
the structure of the way things have been going might fall apart soon because
donc,
there's so much policing and self-policing.
Tout viendra peut-être à s'effondrer parce que l'État, la société est devenue si policière qu'il est impossible de s'exprimer de façon libre. Donc en réalité, tout ça, c'est à l'encontre de ce que je pense. Moi, je ne m'intéresse pas à la politique. J'essaye de m'éloigner d'un propos politique, disons. C'est pas que je ne m'intéresse pas, mais j'essaye de m'éloigner d'un propos politique. Donc il y a là vraiment une espèce de contradiction, voire une impossibilité.
Ma question, c'est au fond, le grand paradoxe, et ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que c'est à la fois le récit d'une hibernation, d'un long sommeil, un sommeil provoqué, mais ça semble aussi être un appel justement au réveil, à réveiller cette société. D'ailleurs, bon, on parlait tout à l'heure du 11 septembre, mais c'est extrêmement corrosif, mordant, assez amoral en fait. La morale ne vous intéresse pas, vous préoccupez. En tout cas, votre héroïne ne s'en occupe pas. Je voudrais juste citer un dialogue de ce livre. C'est extrêmement dialogué. C'est un moment entre sa psy, justement, entre votre héroïne et sa psy. Et c'est la psy qui parle. Il est démontré que la méditation quotidienne soigne l'insomnie des rats. Je ne suis pas quelqu'un de croyant, mais vous pourriez essayer d'aller à l'église ou à la synagogue pour demander des conseils sur la paix intérieure. Les Quakers m'ont l'air de gens raisonnables. Néanmoins, méfiez-vous des sectes. Souvent, ce ne sont que des pièges pour asservir les jeunes femmes. Vous êtes actif sexuellement parlant ? Pas vraiment. Est-ce que vous habitez près d'une centrale nucléaire, d'un équipement à haut voltage ? Je vis dans l'Upper East Side. Vous prenez le métro ? À l'époque, je prenais le métro tous les jours pour aller au travail. Bien des maladies psychiques circulent dans les espaces publics confinés. Je sens que votre esprit est trop poreux. Vous avez des hobbies ? Je regarde des films. Ça, c'est amusant. Comment est-ce qu'on fait méditer des rats ? Ai-je demandé. Vous avez déjà vu des rongeurs se reproduire en captivité ? Les parents mangent leurs petits. D'un autre côté, je ne leur jette pas la pierre. Ils font ça par compassion pour le bien de l'espèce. Des allergies ? Les fraises. Voilà. Docteur Tuttle, c'est ce type de scène loufoque et extrêmement cruelle aussi et plaisante d'ailleurs qu'on découvre dans votre livre, Otessa Moshfegh. Donc je repose ma question. Est-ce que ce livre aussi est paradoxalement, alors qu'il raconte une année de coma volontaire, une façon de réveiller aussi vos jeunes compatriotes millennials pour leur dire un peu arrêtez d'être si moraux?
Yeah, at the time, I was really obsessed with 9/11. I don't know.
Oui, à l'époque, j'étais obsédé par le 11 septembre.
A lot of thinking and researching.
J'ai beaucoup réfléchi.
That day and that.
J'ai fait beaucoup de travaux de recherche.
What people say happened,
sur
etc.
Qu'a provoqué l'11 septembre, ce que les gens en ont dit, en ont pensé.
I found out a lot of things that were very disappointing,
et j'ai découvert beaucoup de choses aussi décevantes que terrifiantes.
Very evident.
La vérité est assez évidente.
There are answers per se, but
non pas que les réponses soient
faciles à formuler,
mais il semblerait que ce soit un petit peu l'éléphant dans la pièce. À l'époque,
I was really kind of obsessed and hoping that if I wrote
j'avais cette obsession et j'espérais que le fait d'écrire une histoire à propos de personnages
delusion,
qui vivent dans un état second, une espèce de vérité parallèle, pourrait se réveiller et peut-être que ça inspirerait.
But I think I kind of realized that we just transfer ourselves from delusion to delusion.
Je me suis rendu compte qu'on passe d'illusion en illusion, de fausse réalité en fausse réalité. Il n'y a pas de véritable façon de prendre la vérité à bras le corps.
Dernière question, Tessama Chouek, vous disiez que vous étiez obsédé par le 11 septembre à l'époque où vous écriviez Mon année de repos et de détente. Est-ce que c'était un moyen d'ancrer aussi cet événement dans ce livre, de rafraîchir un peu la mémoire des Américains sur cet événement? Est-ce qu'ils l'auraient un petit peu oublié?
Non. It wasn't an effort to remind anybody.
Non, je ne veux pas rappeler quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est une coïncidence que le livre se situe avant le 11 septembre. Donc, c'est plus quelque chose qui me concerne. Et c'était une année particulièrement prégnante. Personne ne pensait que cela pouvait avoir lieu. Il y avait des gens qui, évidemment, rétrospectivement, me disent, oui, moi, je savais que ça allait arriver. Tout ça, c'est très intéressant, rétrospectivement. Donc, vous avez la tempête, mais avant la tempête, il y a le calme. Il y a le calme avant la tempête et les choses revêtent une signification toute particulière. Et ça m'a beaucoup intéressé.
Avant la tempête, c'est un peu le début de votre livre, Kauter Adimi, Les Petits de décembre, qui paraît au seuil, roman, je le disais, plein de jeunesse. Quand on ouvre ce livre, on est avec ces deux petits garçons et une petite fille à Alger, à côté d'Alger d'ailleurs, dans une petite commune où la vie est tranquille, dans un lotissement occupé par des maisons d'anciens militaires. Tout est bien, il y a un terrain vague où ils jouent au foot. Voilà, la jeunesse s'épanouit et est rythmée par ces jeux tout à fait enfantins. Et débarque en voiture deux généraux avec des lunettes noires, leur chauffeur et des plans. Et ils annoncent qu'ils vont construire, là où jouent les jeunes, les gamins, deux villas parce que le terrain leur appartient. Et très vite, vous bâtissez dans ce livre une sorte de fable. Je l'ai lu comme ça, comme une fable, même si vous nous disiez que ça partait d'événements réels, d'une révolte menée par les enfants contre la lâcheté des adultes et la prédation aussi des adultes. Ce qui m'a beaucoup passionné dans votre livre, Kauter Adimi, c'est le décalage entre une grande cause, la résistance dont on parlait, et puis un petit point de détail, qui n'est pas un point de détail quand on est gamin, mais le jeu, le terrain de foot, là où on se rassemble, une toute petite pomme de discorde et une énorme bataille qui déclenche. Quel angle de tir vous procurait justement ce décalage?
C'est un peu d'ailleurs ce que disent les adultes aux enfants, mais enfin ce n'est qu'un terrain vague, boueux, il n'y a rien dessus, ça ne nécessite pas une révolution, ce n'est pas une révolution d'ailleurs. Et les enfants n'entendent pas du tout ça, parce que pour eux c'est... D'ailleurs l'un d'eux dit « on n'a que ça ». Et Delibalem, effectivement, c'est un endroit, enfin en tout cas la cité du 11 décembre, c'est assez aisé, mais c'est extrêmement laid, il n'y a rien du tout à part ce terrain vague, qui depuis 20 ans est un terrain qui s'est transformé en un terrain de football. Les enfants l'ont créé cet endroit, c'est un endroit qui ne leur appartient qu'à eux, parce qu'ils l'ont nettoyé. Ils en ont fait un lieu de jeu, un lieu où ils se rassemblent, où les enfants de toute la commune viennent jouer, et les enfants ne comprennent pas l'injustice, de manière générale. Ça, c'est quelque chose
de... Mais c'est ce décalage-là qui vous intéressait, cette petite chose?
Mais parce que ce n'est pas une petite chose pour eux. Ce n'est pas du tout une petite chose pour eux. Pour eux, c'est extrêmement important. Et même si ça n'est pas compris par les adultes, pour eux, il est hors de question de lâcher face à des adultes, face à des généraux, et ça ne veut rien dire pour eux, des généraux, parce qu'on n'arrête pas de leur dire, mais enfin, c'est des généraux, ils ont un papier, ils ont un acte de propriété. Et ça non plus, ça ne signifie rien pour eux. Qu'ils aient un acte de propriété, ça ne veut rien dire. C'est notre terrain, ça fait 20 ans qu'on joue dessus, on ne partira pas. C'est ce qu'ils disent. Et du coup, effectivement, ça paraît complètement absurde, mais pour eux, ça ne l'est pas du tout. Et la révolte, d'ailleurs, prend une ampleur nationale, puisque plein de vieilles personnes, plein d'enfants de toute la ville, et même autour de la ville, rejoignent les enfants dans ce mouvement. Et puis, se crée aussi quelque chose d'un peu magique, puisque puisque les adultes n'osent plus monter sur le terrain. Dès lors que les enfants ont expliqué que c'était quelque chose d'un peu précieux, il y a comme une barrière magique qui se met en place et qui est un peu liée quand même à la lâcheté des adultes. Ils ne veulent pas être vus par les généraux sur le terrain, donc plus aucun adulte n'ose accéder au terrain. Et donc, on a ces espèces de hordes d'enfants qui campent sur le terrain, des généraux qui se font huer et un peu taper dessus avec des cailloux,
pierres, rien,
etc. Rien de grave. Ouais. Mais tout autour du terrain, il y a tous ces adultes qui soit errent autour parce que veulent récupérer leurs enfants mais n'osent pas y aller frontalement, soit sont là pour les soutenir. Et souvent, c'est effectivement de vieilles personnes plutôt qui viennent les soutenir, la génération intermédiaire se tenant à l'écart.
Et je parlais de fable tout à l'heure. C'est vrai que vous nous avez dit ça part d'une histoire réelle.
Mais après, c'est une fiction.
C'était, voilà, on le disait tout à l'heure, le mot de fiction est important, mais cette idée aussi de pousser le curseur, notamment le curseur du ridicule, parce que c'est vrai que pour moi, qui ne suis pas forcément au fait des réalités algériennes, les généraux, c'est le pouvoir. Il faut voir comment vous les décrivez. Je voudrais que vous nous lisiez, c'est le chapitre 5, et c'est les généraux qui rentrent chez eux et leurs femmes leur demandent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Tout le pays déjà commence à en parler. Des gamins ont chassé des généraux du terrain qui leur appartient.
Mais je voulais casser le mythe un petit peu, justement. Pour ne pas avoir peur, il faut casser les mythes. Voilà. Et on a tellement peur. Voilà. « Comment ça s'est passé ?» demandèrent les épouses des deux généraux lorsque ces derniers rentrèrent furieux et humiliés. Ils furent agacés de cette question. Le général Saïd ne répondit pas tout de suite et sortit dans le jardin fumer quelques cigarettes. Sa femme le suivit, s'assit sur le banc en pierre, attendant sagement que son mari se calme, mais il bouillonnait de colère, faisait les 100 pas dans le jardin de sa grande villa, pestant contre ses voyous, ses malfrats, ses terroristes. Le général Atman, lui, réunit ses 5 enfants dans le salon ainsi que son épouse. Il voulait la famille au grand complet pour raconter ce qui lui était arrivé. C'est ainsi qu'ils procédaient toujours. Ils finirent tous les deux par raconter. Ils étaient arrivés sur le terrain après 1 heure sur les routes, quand il ne fallait normalement que 30 minutes pour y aller, mais cette saleté de pluie et de boue, additionnée à l'incapacité des Algériens à conduire correctement, les avait retardés. « Pays de merde !» dit le général Saïd. Sa femme approuve de la tête. Lorsqu'ils arrivèrent sur leur terrain, chaque général insista bien « mon terrain ». Ils ne firent pas attention à une vieille dame munie d'une canne qui leur tournait autour, ni aux deux hommes qui discutaient en marchant un peu plus loin, et encore moins aux jeunes qui fumaient sous le porche d'une maison à quelques mètres et qu'ils apercevaient à peine. À vrai dire, reconnut froidement Saïd, on avait baissé la garde, on s'est fait avoir comme des bleus. « C'est rare que tu sois si peu vigilant », s'étonna sa femme. « Oui, c'est une bonne leçon, la racaille se cache partout, même chez les enfants de hauts officiers. » Si les généraux s'étaient sentis en sécurité, c'est bien parce que la plupart des maisons qui entourent ce vaste terrain sont les propriétés de militaires. Ils vivent ici entourés de leurs enfants et petits-enfants. Ceux qui ont revendu l'ont fait à des médecins, architectes, patrons. « On pensait être entre nous », expliqua Atman à ses enfants. « C'est une bonne leçon pour nous. Ne vous fiez jamais aux autres, même à ceux qui vous ressemblent. Saïd et moi, nous nous imaginions être dans un quartier très sûr. » Les deux généraux furent réellement surpris de cette attaque à laquelle ils ne s'étaient pas préparés.
Merci Kaouter Adimi. Donc c'est un extrait des Petites Décembre. Vous disiez il faut casser le mythe, peut-être encore plus quand il s'agit d'Algérie. Écrire ce livre, c'était ça, une grande entreprise de cassage du mythe. On est presque chez Uberoy. Ils font pas du tout peur, vos généraux.
Mais en fait, moi,
c'est pas ce qu'on m'avait dit, moi, sur l'Algérie.
En fait, vous voyez, moi, j'ai eu cette idée en 2016, vraiment au moment où j'étais revenue et tout le monde me raconte cette histoire. Et donc, je me suis dit, il faut que je raconte cette histoire et puis il faut que ça prenne une dimension, effectivement, un peu burlesque, absurde.
Vous avez cru à cette histoire, vous, d'abord, quand on vous l'a
raconté? Oui, oui, oui. Et puis, il y a eu quelques articles de presse, il y a eu de pétitions, oui, bien sûr. Après, voilà, j'ai eu envie de raconter ça. Je pense aussi qu'il y avait beaucoup, beaucoup aussi, moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce terrain. Vague. Il est absurde ce terrain, il est moche, il y a des cailloux, les buttes ne ressemblent à rien, c'est boueux en temps de pluie, mais j'ai énormément d'affection pour
il
ce terrain.
Toujours, il existe toujours un terrain vague à Deli Ibrahim.
Maintenant, il y a des villas sur ce terrain vague qui appartiennent à des généraux.
Ils ont perdu.
Ils ont perdu, mais moi je raconte une autre histoire, donc il faut lire l'histoire jusqu'au bout, moi je raconte une histoire. Et après, j'avais aussi ce sentiment en 2016 qu'il se passait quelque chose de différent, que ce n'était pas anodin d'avoir des jeunes qui effectivement se luttaient contre des généraux. J'avais envie de sortir de cette peur du mot général et de raconter un roman où effectivement on allait parler de l'armée. Et moi, j'ai grandi dans l'armée. Mon père est militaire et j'ai grandi dans des cités militaires. J'ai vécu à Oran, à Alger, dans des appartements où il n'y avait que des militaires. Et j'avais envie de raconter, en fait, cet univers-là parce que c'est aussi ça, le roman. C'est aussi ces militaires qui, parfois, sont complètement déphasés. Enfin, on raconte cette histoire de ce militaire qui, 30 ans après, est mis à la retraite de manière extrêmement violente et va faire ses courses et part avec un billet de 200 dinars en pensant qu'il allait faire les courses pour la semaine et donc découvre, 30 ans plus tard, les prix des choses, etc. J'avais envie de raconter raconter ça aussi. C'est quoi l'armée et c'est quoi ces militaires, ces petits arrangements. Et enfin, et je pense que je suis parfois peut-être un peu dure, mais j'avais quelque chose peut-être à régler, mais en tout cas à raconter sur cette génération-là que je voyais de mes parents.
Totalement qui sont lâche, pas, en fait.
Qui sont pas mes parents,
enfin,
mais
pas
vraiment
parents,
toutes mais... ces générations qui, depuis 50 ans, disent « Mais si, ça va être notre tour, il faut de l'alternance. » Moi, ce mot d'alternance m'épouvante et me fatigue. Et je trouve que cette génération-là, ceux qui ont 60 ans, ne disent que ce mot-là. D'ailleurs, on l'entend encore aujourd'hui dans les révoltes. Ce n'est pas un mot utilisé par les jeunes, c'est un mot utilisé par ces gens-là. L'alternance, moi, je ne crois pas à l'alternance. Je pense qu'il faut arrêter cette manière de faire. Il faut passer à autre chose. Et c'est ce que font les enfants. Ils disent aux adultes « Non, ça suffit, notre terrain est à nous, on ne partira pas. » Et les généraux ne pourront pas construire leur maison.
Vous êtes né à Alger, hein, vous n'y en 1986, vous ne vivez plus dans ce pays. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand on est écrivain et qu'on écrit sur l'Algérie, en plus depuis l'étranger, depuis le pays des anciens colons? Et en plus, quand on critique l'État... Et qu'on s'en moque, enfin, d'un certain système d'État.
Bah alors, moi, je suis publiée en Algérie. Mes livres sortent en même temps chez Barzac et au Seuil. En tout cas, moi, je ne me mets pas de censure. Ce que j'écris ici sort là-bas et ce que je dis ici, je le dis là-bas. Je pense qu'on peut tout dire en Algérie et qu'il n'y a aucun problème
dans un roman.
Le dit en Algérie.
Ouais. Est-ce que le roman permet justement
de... On va voir avec ce roman. Moi, en tout cas, je crois qu'il y a jusqu'à février, il y avait quand même quelques sujets très tabous. Le président était un sujet extrêmement tabou. Moi, j'ai envie de croire que depuis février, les choses ont aussi un peu changé.
Il est là, vous en parlez d'ailleurs.
J'en parle effectivement. Je parle vraiment du pouvoir effectivement dans ce roman. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'y réfléchis, que j'y travaille. Maintenant, je pense est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand on écrit? Je ne crois pas. Je pense que justement, il ne faut pas prendre de précautions. Il ne faut pas se sentir censurer. Il ne faut pas faire d'auto-censure.
Mais maintenant, utiliser l'humour, par exemple, est-ce que, alors, je ne vais pas parler de précaution, mais alors, est-ce qu'on...
Mais c'est une marque de fabrique des Algériens.
Voilà,
ça,
exactement. C'est une arme qui permet, en tout cas, dans le livre, de dire beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Alors, c'est effectivement un roman, je parlais de fables, de contes extrêmement drôles, faussement légers, notamment parce qu'au milieu du livre, il y a vraiment une vraie rupture, d'ailleurs c'est même en italique, c'est le passage d'un journal, en fait, que tient, parce qu'il n'y a pas que des enfants.
Non, il y a beaucoup d'adultes,
voilà,
en fait.
Il y a une grand-mère, voilà, une Mujahida, une combattante de la libération, qui s'appelle Adila, qui a beaucoup d'humour, qui à la fois est respectée parce qu'elle a résisté aux Français, elle a été torturée, mais elle manie aussi Facebook. Et donc, évidemment, pour propager les informations et notamment les humiliations de généraux, elle est très forte. Donc, elle est doublement crainte. En revanche, voilà, il y a un moment, il y a une cassure dans le roman, une cassure de ton. Je lis juste le début. Il faudrait réussir à raconter toutes les vilaines histoires, celles dont on a si peu envie de se souvenir, celles qu'on a voulu enterrer au plus profond de soi. Il faudrait oublier la pudeur, montrer les cicatrices toujours là sur le dos que peu de gens ont vu. Les écrire, ces mots si difficiles, torture, guerre, indépendance. Elle est effrayée, Adila, que son passé disparaisse avec elle. Il est aussi question de faire retrouver la mémoire. Je posais la question à Tossam Mochfek tout à l'heure sur le 11 septembre, de faire retrouver la mémoire aux Algériens.
Oui, alors Adila, elle est effrayée parce que son histoire à elle n'est pas la même histoire que celle racontée en Algérie. Ce n'est pas l'histoire officielle. Et ce qu'elle voudrait, c'est, d'ailleurs elle le dit, elle voudrait parler des femmes pendant la guerre, des relations qu'il y avait avec les hommes. Elle voudrait parler aussi du terrorisme. Qui est les années 90, n'existe pas dans l'histoire contemporaine algérienne officielle. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, ou lorsqu'on en parle de manière officielle, c'est uniquement pour faire peur aux gens en disant attention, si vous manifestez, si vous demandez le changement, ce que vous aurez, c'est de nouveau la guerre civile. Et il y a eu beaucoup de lois pour gracier ceux qui étaient montés dans le maquis, beaucoup de lois d'amnistie, etc., qui font qu'en fait, toute cette partie-là de l'histoire, de 1990 jusqu'à 2002, 2003, et voire un peu plus, est un peu passé sous silence. Et c'est vrai que même d'un point de vue littéraire, tout ce qui a été produit dans les années 90, on l'a appelé en Algérie littérature d'urgence. Je trouve que c'est assez phénoménal comme appellation. Et on a décidé que tout ce qui avait été fait, en fait, c'était un truc écrit dans l'urgence. Donc qu'on en enlevait un petit peu, finalement, le côté esthétique de la littérature. Et Adila, elle a très peur de ça. Elle a très peur qu'on oublie et ou surtout qu'on raconte que ce qu'on a envie de raconter. D'ailleurs, elle dit, dans les années 90, on demande des élections libres, on les a, mais ce que donnent les urnes ne nous plaît pas et on est mal à l'aise parce qu'en fait, les gens ont choisi les islamistes, ça ne nous va pas. On dit qu'on ne veut pas de ça, mais évidemment, on est mal à l'aise.
Et ça, il fallait cette cassure.
Et oui, je pense qu'il fallait cette cassure parce que effectivement, ce roman, il y a 3 enfants, c'est génial, les enfants militent contre les généraux, etc. Mais il fallait raconter aussi ce que c'est que l'armée, il fallait raconter aussi ce qu'est ce pays.
Moi, Et changer de ton.
Ouais. Même si Adela, elle est parfois très drôle quand elle se fait arrêter, elle est très très drôle avec les policiers. Mais effectivement, là, il y avait quelque chose de très personnel. Elle raconte dans son journal ce qu'elle n'a jamais dit, parce qu'en plus, elle fait partie de ces personnes-là qui n'ont pas envie de vivre dans le passé, qui ne se glorifient pas de ce qu'ils ont fait pendant la guerre, mais qui, du coup, est aussi une intouchable, comme les enfants. Mmh. Parce qu'on ne peut pas arrêter une ancienne Moudjahida et on ne peut pas arrêter une dame qui est adorée de tout le pays.
Mmh. Et alors, il y a une chose d'ailleurs qui vous réunit, Otessa Moshfegh et Kauter Adimi, c'est la façon, on terminera là-dessus, dont vous parlez des hommes. Parce que dans Mon année de repos et de détente, le personnage de Trevor, l'ex de votre héroïne, est totalement veule, totalement, finalement, j'allais dire pas viril, ou dans une espèce de virilité extrêmement désagréable. Et dans votre livre, Kauter Adimi, il y a ce passage, toujours, où Adila se souvient de ce que sa mère lui disait sur les hommes. Ma mère voulait être certaine que j'avais bien compris. Est-ce que tu sais ce que ça signifie lorsqu'un homme touche une femme? Je fis oui de la tête, même si je l'ignorais. Bien, me voilà rassurée, je te laisse te reposer. N'oublie pas de remplir la buvette du chardonneret, il n'a plus d'eau, le pauvre. Oui, maman, tu es sûre que tu as bien compris ce que je t'ai dit? Je te jure que oui. Tu sais, Adila, on n'habite pas n'importe où. On vit dans une ville qui a ses propres règles. Je l'ai toujours dit. En fait, qu'on soit à Manhattan ou qu'on soit à Alger, le regard sur les hommes, il est assez peu amène.
Alors moi, effectivement, dans tous mes livres, je crois malheureusement, à part peut-être dans Nos richesses, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors là, dans l'extrait que vous avez choisi, c'est parce que la mère d'Adila est prostituée et elle a très peur pour sa fille.
Oui, qui vient d'avoir ses règles.
Qui vient d'avoir ses règles. Donc elle a toute une conversation qui met extrêmement mal à l'aise Adila, assez violente sur les hommes. Mais moi, je viens d'un pays aussi où on glorifie énormément les hommes et où les femmes doivent souvent se battre pour exister. Et je pense que du coup, effectivement, même lorsque j'écris, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un personnage d'une petite fille, ce qui n'est pas anodin dans Les Petites Décembres. Et c'est d'ailleurs la plus courageuse des trois. C'est celle qui va avoir l'idée d'occuper le terrain. Et c'est celle qui, jusqu'à la fin du roman, refusera toute concession et tout compromis.
Mmh. Et c'est si difficile, Otessa Moshfegh, de parler des hommes en termes louables, élogieux.
I don't feel any pressure to glorify men.
Non, on parlait de glorifier, vous avez utilisé le mot de glorifier tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Ce qui est important dans la fiction, c'est le conflit. Si tout était formidable et si on glorifiait tout ou n'importe quoi, et n'importe qui, il n'y aurait pas de sujet. Toutes les jeunes femmes,
à mon avis. Vous êtes juste
un peu gentil.
Vous voulez que je dise quelque chose de gentil sur les hommes?
Non, je disais que dans votre roman, il ne donne pas du tout envie, les caractères masculins. C'est vraiment la lâcheté, l'utilitarisme des femmes de leur part, c'est terrible.
Ah non, c'est pas difficile. Mais en réalité, non, moi je crois que, vous avez mal compris, c'est elle qui utilise Trevor. Hein. Elle connaît exactement la nature de la personnalité de Trevor. Non, non, je ne suis pas en train de critiquer Trevor. Hein. Trevor, c'est un petit peu un crétin, quoi.
Mais
elle n'est pas victime de Trevor, non.
Non, ça n'empêche qu'il ne donne pas très envie. On n'a pas envie d'être Trevor. On préfère être votre héroïne. Voilà, Otessa Moshfegh. Ça s'appelle « Mon année de repos et de détente ». C'est publié chez Fayard. C'est traduit par Clément Baude. Merci à vous, Otessa Moshfegh. Kauter Adimi, « Les petits de décembre ». C'est publié au Seuil. Voilà, longue vie à vous et à vos livres. Je remercie aussi Xavier Combes qui vous a interprété, Otessa Moshfegh. On va passer votre choix musical, Kauter Adimi, vous avez choisi la Casa del Mouradia de Ouled El Badja. Pourquoi ce choix musical? Ah oui, j'ai mal prononcé. Redites-le.
La Casa del Muradia ou la del Berger.
Voilà. Et pourquoi ce choix musical?
Eh bien, c'est un chant de stade qui est sorti il y a quelques années et qui a été pas mal repris ces derniers mois dans la rue. Et ça combinait deux choses importantes dans mon livre, le football et la révolution, la contestation. Et c'est une chanson qui parle de Bouteflika, des mandats, du clientélisme et de la manière dont les cinq mandats sont vendus au peuple algérien. Donc c'est une bonne chanson pour lire mon livre.
Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Claude Niort à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook, Twitter, podcaster pour réécouter à l'infini, si vous voulez, cette émission sur franceculture.fr avec Otessa Moshfegh et Kauter Adimi.
بلينا المعيشة هدية ساعد الفجر وما جانينو غادي نكونسومير بشوية شكون السبة وشكون اللوم بلينا المعيشة هدية في اللولة نقولو جازت شاورنا بالعشرية في الدنيا الحكاية بانت قصاد المرادية في التلتان بلاد شيانة بالمصالح الشخصية في الرابعة الكوبية ماتت ما زالت القضية في الأولى نقولوا جازت شبهنا بالعشرية في الثانية الحكاية بانت قصاد المرادية تلتان بلا شيانة بالمصالح الشخصية في الرابعة الكوبية ماتت ما زالت القضية ساعد الفجر وما جاني نور راني كونسومي غير بشوية شكون السبة وشكون اللوم منين المعيشة هادية ساعات الفجر وما جاني نور غادي نكونسومي غير بشوية شكون السبة وشكون اللوم ملينا المعيشة هادية والخمسة راي تسوي في بيناتهم راي مبنية والباصيرة مرشي في مخوة تاع الحرية في راجل الهدر بريفي يا عرفك يتقيا مدرسة ولازم سيفي بير ومحو الأمية والخمسة راي تسوي في بيناتهم راي مبنية والباصي راوشي في غفوة الحرية في راجل الهدر بريفي يا عرفك يتقيا مدرسة ولازم سيفي بير ومحو الأمية ساعات الفجر وما جاني نور راني نكونسومي غير بشوية شكون السبة وشكون اللوم ملينا المعيشة هادية ساعات الفجر وما جاني نور صومي غير مشوية شكون السبة وشكون اللوم ملينا المعيشة هادية